toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotin.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Cette semaine, on vous entraîne en Algérie avec un formidable documentaire d'une grande ambition. Toute l'Algérie du monde, c'est son nom, nous plonge dans les arcanes politiques et géopolitiques de l'Algérie des années 90 et 2000. C'est un film coproduit par l'INA et Arte, diffusé sur Arte le 28 septembre. Mais vous pouvez le revoir, hein, le voir ou le revoir en replay sur Arte TV jusqu'au 26 novembre. Avec nous pour en parler, son réalisateur Malek Bensmaïl. Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour Akram Belkaïd.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, journaliste au Monde Diplomatique et vous avez été consultant sur ce documentaire. Alors, documentaire très ambitieux, je le disais, précis, qui couvre la période 1992-2019, donc en gros les années Bouteflika. Alors, en quoi, Malek Bensmaïl, cette période était-elle charnière pour vous ? Ça commence à la fin des années noires, donc qui ont par la suite suscité tant de documentaires et de fictions. Là, pour le cinéma, on a l'impression que c'est un peu terra incognita.
Oui, en fait, c'est un film qui fait suite aussi à toute une démarche où je filmais régulièrement les élections présidentielles. Hein. Pour rappel, j'avais fait le film qui s'appelle Le Grand Jeu pour l'élection de 2004, en suivant la campagne électorale de Benflis, qui était à la fois ancien directeur de cabinet de Bouteflika et à la fois Premier ministre. Puis après,
et
il a
son
claqué,
challenger.
Et après, il a claqué la porte, il est devenu son challenger. Il a fait un coup d'État auprès du FLN, il a récupéré le parti du FLN pour se positionner contre Bouteflika. Et ça a été peut-être l'un des premiers films, d'ailleurs, dans le cinéma documentaire et dans le monde arabe, où j'ai pu d'ailleurs être en immersion dans un QG de campagne et suivre véritablement un candidat de cette importance-là. Après, il y a eu le fameux film Contre-pouvoir en 2014, où j'ai suivi à travers les personnages de journalistes d'Al Watan comment fonctionnait effectivement une élection en 2014 à travers le prisme des journalistes. Donc j'avais envie véritablement, quand Bouteflika aller se positionner pour un cinquième mandat. Il était évident pour moi qu'il fallait pas faire un film encore sur l'élection présidentielle, mais qu'il fallait saisir, je pense, les enjeux géopolitiques, comment l'Algérie se positionnait, comment les pays étrangers, les puissances occidentales, les voisins, comment tous ces pays-là fonctionnaient avec l'Algérie et avec le régime de Bouteflika. Donc c'était intéressant de comprendre la mécanique de la diplomatie, la mécanique des géopolitiques à ce moment-là. C'est, et à l'international, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a autant de silence pendant les années de Bouteflika ? Qu'est-ce qui fait ? Comment les choses ont fonctionné depuis son arrivée ? Comment l'armée a décidé de le faire venir ? Et comment ils l'ont accompagné jusqu'au cinquième mandat ? Et seul le peuple est sorti effectivement en 2019 pour le chasser du pouvoir. Mais c'était non pas raconter véritablement les années Boutef, mais raconter comment l'Algérie a fonctionné dans son rapport aux relations internationales avec les pays internationaux, les pays étrangers.
Alors la vie des films et leur diffusion sont toujours un peu mystérieuses. Hein. C'est vrai que là, sans même parler de la crise des visas dont on a beaucoup parlé cette semaine, toute l'Algérie du monde est diffusée 2 semaines seulement après la mort de son personnage principal, hein, si je puis dire, Abdelaziz Bouteflika. C'était le 17 septembre dernier.
Samedi, jour de marché à la Goutte d'Or. En fin de matinée, la nouvelle n'était pas encore parvenue à toutes les oreilles.
Qu'est-ce qu'il a ?
Comment ? Il est mort !
Chez ces hommes d'une soixantaine d'années, elle ne provoque aucune nostalgie.
Ils ont ruiné le pays. Le riche, il est riche et le pauvre s'appauvrit. Et il est responsable pour ça.
Il a laissé 20 ans au pouvoir.
20 ans de royaume, il y avait des gens qui venaient à la présidence, sa sœur, son frère, sa mère, tout ça, ils commandaient l'Algérie.
Leur bilan est très sombre, mais pas partagé par ces deux passantes, elles aussi d'origine algérienne.
Il était bien, c'était son entourage qui n'était pas bien. Il nous a sortis du terrorisme. C'est sa maladie que les gens, ils ont profité.
Un jeune vendeur de cigarettes à la sauvette s'approche, intrigué par les échanges. À l'évocation de l'ancien président, son regard se ferme.
Elle est morte, elle est morte, c'est tout. Elle a fait beaucoup de mal pour le peuple, il a volé beaucoup d'argent. Même et le peuple, jusqu'à maintenant, il souffre. Les jeunes, 20, 21 ans, 18, il prend le bateau, il vient ici. Est-ce que c'est normal ?
Mohamed s'éloigne en sifflant entre ses dents que ça n'est pas mieux aujourd'hui et qu'il n'espère plus rien de son pays.
Un reportage signé Marie Casadebé pour RFI, donc dans les rues de la Goutte d'Or. Alors on entend hein, les passants qui réagissent à l'annonce de la mort de Bouteflika, 20 ans de royaume. Et on a l'impression, je vous pose la question à tous les deux, Malek Bensmaïl, Akram Belkaïd, que l'image en fait du vieux despote corrompu a complètement effacé celle du brillant ministre de Boumédienne.
L'image du ministre brillant, flamboyant, icône de la diplomatie tiers-mondiste algérienne appartient au passé. Je veux dire qu'aujourd'hui, notamment pour les plus jeunes, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent même pas. Ils en ont entendu parler. Et je pense que c'est aussi une des motivations de Malek pour ce film. C'est-à-dire que lui, il a pris le contre-pied. On a tellement de sujets sur ce que fut cette diplomatie dans les années 70, le tiers-mondisme, l'engagement, l'Algérie non alignée. Et il était intéressant aussi de réfléchir à ce qu'était cette diplomatie dans les années 2000, dans les années 90, aujourd'hui encore. Et effectivement, pour Bouteflika, il aurait pu être le promoteur d'une Algérie nouvelle, pour reprendre une expression à la mode aujourd'hui. Et il a fait d'autres choix. Il a fait, lorsqu'il prend le pouvoir en 99, lorsqu'il est élu en 99, il verrouille le système politique en réalité. Il aurait pu faire renaître cette transition politique qui est évoquée au début du documentaire, multipartisme, ouverture, liberté individuelle. Lui a gelé le jeu. Il a certes gardé les façades de la démocratie, mais il a gelé le jeu et il a fait perdre en gros l'Algérie deux décennies. Parce que malheureusement, à sa chute, l'Algérie est aujourd'hui confrontée aux mêmes problèmes structurels auquel elle avait affaire lorsqu'il a pris le pouvoir en 1999.
Vous, Malek Bensmaïl, je voyais sourire souvent en écoutant le reportage de Marie Casadebé.
Ben parce que c'est des personnages voilà qui sont pris sur le vif et qui ont une répartie, le sens de la répartie à l'algérienne, et ça fait sourire évidemment. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un sens assez pointu dans leur réflexion, c'est-à-dire que à la fois Bouteflika effectivement aurait pu avoir véritablement une vraie politique de modernisation de la société, etc. Et ça n'a pas été le cas. Du coup, on se retrouve avec une population qui, au fil des années, saisit que c'est la famille Bouteflika qui enclenche un peu la corruption, etc.
Enfin, donc, comme toujours, hein, c'est ce qu'on disait des Ben Ali, c'est ce qu'on disait de la famille de Moubarak.
Oui, c'est-à-dire
c'est toujours les proches.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, malheureusement, dans ces pays autoritaires ou totalitaires, ces gens qui dirigent ne saisissent absolument pas la possibilité de, même si on peut rester dans un pays autoritaire, de faire évoluer les choses. C'est-à-dire, on peut comprendre que la transition est difficile, passer d'un régime dit autoritaire à un régime démocratique, mais les choses peuvent, avec une véritable personnalité politique, etc., peut petit à petit mettre en place des éléments qui permettent effectivement d'avoir à la fois une justice, d'avoir un peu de liberté, de donner la possibilité à la jeunesse de se construire, etc. Ce qui n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'il fallait d'emblée donner la possibilité à la jeunesse de s'emparer un petit peu, de porter un peu un flambeau, et parce qu'on a une jeunesse extraordinaire en Algérie, et elle a été mise aussi de côté, et les hommes d'affaires se sont servis, et le film le montre assez bien, se sont servis avec le régime, avec la famille de Bouteflika.
Ouais. Mais là, ce que vous montrez dans ce documentaire, Malek Bensmaïl et vous, Akram Belkaïd, c'est que sans doute, évidemment, Bouteflika est sans doute l'un des premiers responsables, mais c'est aussi lié à peut-être aussi l'influence ou le poids des relations étrangères. Vous avez d'ailleurs un panel de personnalités assez impressionnant. Hein, ça va de conseillers diplomatiques, enfin étrangers aussi, oui. Américains. Il y a aussi l'ancien président François Hollande qui témoigne et qui le dit d'ailleurs très honnêtement. Évidemment, un tout pouvoir préfère toujours la stabilité.
Oui.
Et on préfère toujours ce qu'on connaît à l'inconnu.
Oui, c'est-à-dire que mon parti pris était d'aller interviewer que des personnalités qui étaient en poste à l'époque et de ne pas avoir d'observateurs et d'analystes, etc. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de films qui sont faits avec des observateurs. Et c'était très important d'avoir des gens qui étaient en poste parce que c'est à eux de dire comment les choses, quelle était leur manière d'avoir une relation avec le régime et d'avoir un rapport à la diplomatie avec les diplomates algériens et avec les ministres et le président Bouteflika. Donc oui, à la fois tous ces diplomates qu'on a pu interviewer, ces présidents de la République, mais aussi la parole libre des témoins algériens. C'est formidable parce que ça a été très difficile, évidemment, de pouvoir les interviewer.
Alors justement, on aimerait en savoir plus parce qu'on imagine que justement, c'est pas par hasard si 99,9% des documentaires font appel à des experts plutôt qu'à des gens qui ont été en poste, en fonction, etc. C'est que ces gens-là maîtrisent très bien la parole diplomatique, pour ne pas dire la langue de bois. Donc comment avez-vous réussi déjà à obtenir les interviews? Est-ce que c'était compliqué? Que d'habitude?
Oui, bien sûr.
Et puis à les faire parler d'une façon aussi libre.
Hein. Alors, bien sûr, ça a été compliqué. C'est pour ça que j'ai demandé à Akram à la fois de m'aider pour qu'on puisse trouver des personnalités et de m'aider lors des entretiens, parce que même si j'ai une culture politique, etc., j'avais besoin d'avoir les yeux aguerris de Akram sur la question algérienne.
Vous étiez toujours tous les deux
voilà,
derrière
donc on
la
a
caméra.
Fait quasiment presque tous les entretiens, en France, en tout cas, ceux qui sont ce qu'on a pu faire en France. Et puis moi, j'ai fait les entretiens, évidemment, en Algérie. Mais avec Akram, on se mettait d'accord sur l'ensemble des questions à poser, sur les enjeux, sur les questions qu'il fallait poser et les questions qu'il ne fallait pas poser, etc. Ce qui était très difficile pour moi au départ, c'était d'abord, véritablement, faire comprendre aux acteurs algériens, aux personnalités algériennes, qu'il était très important de témoigner. Il faut savoir que c'est un régime qui est très fermé et que l'ensemble des diplomates, etc., ont toujours une crainte, effectivement, de venir face caméra. Autant par l'écrit, c'est possible, mais autant face à caméra, c'est toujours compliqué parce qu'il y a une preuve par l'image. Hein, on peut pas... voilà. Et du coup, voilà, ça a été important. Même le général Maïza, avoir un militaire, un ancien général qui nous donne un petit peu toutes les arcanes, toutes les ficelles de comment on a fait venir Bouteflika, des tensions qu'il y avait pour faire venir Bouteflika et lui donner la présidence. Alors, tout ça, c'était très important pour rendre compte, en tout cas, du fonctionnement du système algérien.
Alors, c'est officiel, hein, et puis cette schizophrénie du pouvoir, on en reparlera. Mais pour l'instant, on fait une pause avec la voix de velours de la sud-africaine Pilani Boubou. C'est le choix musical de notre réalisatrice, Fanny Renard.
Wavering, he did that on purpose. Foundering, find me, wandering. Destiny is yours, no matter how precarious the path. Forward is not a linear path. Sideways walks the crab, wavering. He did that on purpose. Blundering, ask me, find me, squandering. Destiny is yours, no matter how precarious the path. Forward is not a linear path.
Vous êtes bien sûr RFI dans tous les cinémas du monde avec nos invités Akram Belkaïd et Malek Bensmaïl pour parler de toute l'Algérie du monde. Un documentaire diffusé sur Arte TV jusqu'en novembre. Malek Bensmaïl, on voit beaucoup Bouteflika dans votre film, tout jeune ministre des Affaires étrangères de Boumediene ou président de l'Algérie, donc déjà plus âgé. Et une archive du film en particulier est extraordinaire. On est à Alger, probablement à la toute fin des années 90. Et Abdelaziz Bouteflika affronte des dizaines, voire des centaines de femmes qui pleurent leur disparu. Alors je voudrais qu'on l'écoute et ensuite, Malek Bensmaïl, vous nous la commenterez.
Sur la scène internationale, le nouveau président se présente comme l'homme de la paix et du changement. C'est lui qui solde les années noires et impose aux Algériens une loi de concorde civile. Un couvercle de fonte est posé sur leur douleur.
C'est une scène terrible. L'homme qui crie, bien sûr, c'est Abdelaziz Bouteflika. Expliquez-nous ce qui se passe.
Oui, alors c'est un discours qui était fait pour lancer l'idée de la concorde civile. Et en gros, c'est vrai que c'est une scène extrêmement forte. C'est des femmes qui, pour la plupart, sont des mères, des sœurs, des grandes sœurs, etc., qui ont perdu ou leurs frères ou leurs pères ou leurs enfants, qui demandaient un peu des comptes à l'État algérien pour savoir où était passé pendant cette décennie noire où étaient passés les membres de leur famille. Et Bouteflika répond en gros qu'il ne les a pas cachés dans sa poche. Voilà, c'est assez dramatique hein, dans la façon de parler, de hurler sur ces femmes-là
qui sont dans la douleur la plus totale. Il les insulte, absolument. Il leur dit taisez-vous.
Voilà, et il dit j'ai pas 4000 disparus dans ma poche, parce qu'en fait, en plus, les disparus, je pense qu'ils sont beaucoup plus que 4000, évidemment. Voilà, donc c'est une scène qui rend compte un petit peu de l'autoritarisme qu'il y avait de Bouteflika et de la manière dont la concorde civile a été en fait un échec total parce que on ne met pas en place une concorde nationale, une concorde civile en n'actionnant pas la justice.
Alors voilà, c'est ça, il faut le dire, c'est que contrairement au Rwanda ou à l'Afrique du Sud ou à d'autres pays, il n'y a pas eu de jugement des coupables qui n'avaient pas commis de crimes
voilà,
de sang.
Voilà, donc c'est resté sans Akram peut en parler. Je t'en prie, Akram, si tu veux développer.
Alors, ce que je voudrais dire, c'est que Malek a été... le film, vous l'avez bien dit, moi, je ne suis intervenu que sur des séquences, le montage, le contenu, c'est lui. Et quand il m'a envoyé la première maquette de son film, je dois vous avouer que j'ai été bien content. Vraiment, alors pas parce que ce sujet m'amuse, mais parce que je trouvais que c'était important que ce soit abordé. Parce que la question des disparus, pour bien préciser les choses, ce sont des mères de disparus, mais dont la grande majorité sont des disparus qui appartenaient au camp d'en face.
C'est-à-dire donc au GIA au groupe...
Non, pas au GIA, mais des gens qui étaient suspectés d'être proches du GIA ou
proches
appartenant
des terroristes.
Au FIS.
Ou donc voilà, ce sont des gens qui ont disparu, qui ont été probablement assassinés par l'armée. En
fait. On ne sait pas, effectivement, qui ont été arrêtés, qui ont disparu. On sait qu'il y a dû y avoir des exécutions.
Il y a eu des disparus.
Il y a eu des disparus, comme dans toute sale guerre. Et alors ce sujet-là est très épineux, parce qu'il est doublement épineux. Il pose la question de la responsabilité de l'État par rapport à cette question de la décennie noire. Et il pose, comme vient de le dire Malek, la question du pardon. C'est-à-dire que, comme on l'entend dans le documentaire de quelques protagonistes qui disent « on ne sort pas d'une histoire pareille en décrétant par le haut que c'est fini ». Il faut un processus de justice transitionnelle où les victimes, quelles qu'elles soient, ont droit à la justice. Et Bouteflika arrive, il est pressé, parce que lui, il a un dessein international, il veut absolument replacer, et c'est le cœur aussi du film, l'Algérie au cœur du jeu régional et international. Il trouve que l'Algérie a été oubliée pendant trop longtemps, et il est pressé, et il a besoin de cette loi, aussi vite que possible, pour dire, bon ben voilà, la décennie noire, c'est fini, on n'en parle plus, s'est rangé dans les oubliettes. Il utilise une expression arabe qui dit « les fêtes mettent », c'est-à-dire ce qui est
le passé est mort.
Et voilà, et c'est fini. Et votre douleur, cette femme qui l'interpelle, eh bien, de toute façon, elle est doublement méprisée parce que d'abord, c'est une mère de disparue et puis que c'est quelque chose qui stoppe son projet qu'il voit pour l'Algérie de grande concorde nationale et de pardon.
Alors cet oubli, ce n'est pas cet oubli national, ça n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'Algérie, ça n'est pas non plus la dernière. Mais est-ce que c'est une forme de... c'est une occasion manquée pour l'Algérie, c'est-à-dire quelque chose dont on sent encore aujourd'hui les vagues, les ondes.
L'Algérie ne vit que d'occasions manquées. 62, on a eu la crise de l'été, pour rappel. Ça a été, encore une fois, dès l'indépendance. 88, quand on a eu la jeunesse qui est sortie dans la rue, etc., ça a été une occasion manquée. Après, on a eu le début des élections, multipartisme, etc. Ça a été une occasion effectivement manquée. Après, on a eu la décennie noire et puis cette arrivée de Bouteflika, ça a été une occasion manquée. Et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'on ne fait que rater des occasions. Et même le Hirak est une occasion, encore une fois, peut-être manquée. Je ne sais pas ce que sera l'avenir de l'Algérie. Mais nous ne savons pas, nous avons des possibilités de rebondir. Mais nous, quand je dis nous, c'est-à-dire l'État algérien, maîtrise simplement, la défense des institutions. C'est ça, en fait, sa priorité. J'ai compris maintenant que c'était d'abord la défense des institutions, mais jamais un rapport à la population. C'est-à-dire que le jour où on comprendra...
Ni parfois à la réalité.
Et à la population, c'est-à-dire que seule la population, le peuple, si on lui donne la possibilité d'avoir une justice, une liberté, remettre la citoyenneté au cœur de la société algérienne, les institutions seront fortes. Tant qu'il n'y a pas ça, on aura toujours des fragilités à l'intérieur en politique intérieure et des fragilités en politique étrangère, évidemment, puisque la politique étrangère, elle dépend aussi du socle, enfin dis-moi si je me trompe, de la politique intérieure. Si la politique intérieure est toujours fragilisée par un manque de justice, un manque de citoyenneté, un manque de démocratie et de liberté, évidemment que la diplomatie algérienne sera toujours fragilisée et que les institutions seront toujours fragilisées. Et le film le montre. Ils sont ballottés aussi bien pendant la décennie noire où la diplomatie algérienne et l'armée ont été boycottées, mis de côté. Ce qui a un peu sauvé l'Algérie à un moment donné, ça a été le 11 septembre, puisque ça a remis l'Algérie, qui était encore dans la décennie noire, mais qui, du coup,
avait une expertise. Au centre du jeu, presque.
Voilà, au centre du jeu, parce qu'il y avait une expertise autour du terrorisme, etc., etc. Et puis, à partir de là, au lieu, encore une fois, de s'emparer de cette possibilité de rebondir et du coup de démocratiser, de trouver une solution, de dire allez, on va sortir du sécuritaire, du tout sécuritaire, et on trouve un système pour pouvoir remettre un peu des enjeux de démocratie, de multipartisme, de liberté, etc., d'opinion, et bien ça n'a pas été le cas, et ainsi de suite. Donc, comme tout a été verrouillé par Bouteflika et ses régimes et l'ensemble de ses ministres, plus la corruption, et ben ça a engrangé effectivement une descente aux enfers.
Mais est-ce que le grand atout, mais c'est pas aussi le même poison, je sais pas si c'est les deux faces de la même pièce, c'est les ressources pétrolières et les ressources gazières du pays, qui expliquent qu'il y a une telle inertie autour de, peut-être des institutions pour protéger la manne.
Alors, je ne sais pas si c'est que cette réponse-là qui... Parce que c'est ce qu'on dit régulièrement en disant, là, voilà, c'est un peu notre... Mais je pense qu'il y a peut-être autre chose que juste l'argent du pétrole.
Disons que l'argent du pétrole a permis, pendant très longtemps, à ce pays de se développer. C'est-à-dire que l'Algérie post-coloniale, l'Algérie des années 60, c'est une Algérie profondément sous-développée. Et l'argent, la rente, a permis de construire des hôpitaux, des routes, des lycées. Enfin, tout, Malek et moi, on en a bénéficié. On est des enfants de l'indépendance. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, le slogan de diversification de l'économie, c'est-à-dire, et là aussi, il y a un intervenant qui le dit dans le film, il dit être capable de créer soi-même sa richesse. C'est-à-dire d'avoir certes un matelas, c'est la rente, ça permet d'être à l'aise, mais créer autre chose par l'agriculture, les exportations. Et ça, c'est un système qui n'a jamais réussi à percer pour différentes raisons, effectivement, et qui est une des raisons de l'incapacité de l'Algérie à vraiment décoller. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce que vient de dire Malek, il y a cette vision, je dirais, du peuple, de la part de ceux qui le dirigent.
En Libye, l'élan révolutionnaire cède la place à la guerre civile. Très vite, les puissances occidentales s'ingèrent dans le conflit et décident, au-delà de leur mandat, de faire tomber le régime.
Et la France qui lève maintenant la tête et veut attaquer la Libye. Est-ce que tu veux attaquer la Libye, espèce d'idiot ? C'est nous qui allons t'attaquer. Viens et essaye de nous attaquer.
Monsieur Kadhafi, il a en main sa situation personnelle. Il part et il évite bien des souffrances au peuple libyen. Il s'entête et lui-même en paiera les conséquences.
Voilà, on a vu qu'il a payé les conséquences, Muammar Kadhafi, donc mort en octobre 2011, tué par des soldats du CNT libyen, donc Conseil national de transition. Alors finalement, l'Algérie, on se dit, c'est vraiment un pays de paradoxe. Le 11 septembre 2001, ça va leur apporter ce dont vous parliez tout à l'heure, Akram Belkaïd, c'est-à-dire une visibilité internationale. Et paradoxalement, on a l'impression que les révolutions du monde arabe et spécifiquement la guerre civile en Libye, comme le dira François Hollande plus tard dans votre film Malek Bensmaïl, l'Algérie a payé... Il a payé très cher, finalement.
Oui, il a payé très cher. Alors, petite chose importante, c'est à la fois le commentaire du film qui a été coécrit avec Akram et qui est lu par le comédien Slimane Dazi. Je trouvais que je voulais lui rendre un petit peu hommage à Slimane parce que c'est un acteur important aujourd'hui en France. Et ce qui nous frappe un peu dans cet extrait, c'est qu'on voit le parallèle, si on revoit le film, qui est exactement le même que la déclaration de Bush à propos de Saddam Hussein. Bush fait sa déclaration à propos de Saddam Hussein exactement de la même manière que le fait Sarkozy par la suite à propos de Kadhafi. Donc il y a quelque chose d'un rapport à l'Occident qui est extrêmement trouble. Et le fond de la question, en fait, de cette archive-là, c'est si vous vous rappelez, il y a l'extrait de Bush qui, à la suite du 11 septembre, déclare effectivement la guerre à Saddam Hussein et dit véritablement... et demande à ses enfants et à Saddam Hussein de quitter le pays, et que s'ils ne le quittent pas, il en tirerait les conséquences. Kadhafi a exactement les mêmes propos vis-à-vis de Kadhafi. Sarkozy vis-à-vis de Kadhafi. Donc c'est quelque chose qui est assez étonnant. Enfin, moi, quand je l'ai vu en archive et qu'on a analysé avec mon mentor, on s'est dit, c'est incroyable. Donc à 10 années de voilà, on a cette répétition de la chose. Après, ça, c'est la petite parenthèse, mais qui est importante pour montrer aussi le jeu trouble et le positionnement de quel côté on regarde le film. Est-ce qu'on le regarde dans l'angle, l'axe de l'Occident ou l'axe effectivement de l'Algérie? Et effectivement, l'Algérie a eu cette crainte, en tout cas, du printemps arabe. Et un des personnages qui s'appelle Tafar, un ancien ambassadeur, dit « Le régime a eu extrêmement peur à ce moment-là ». Ça, c'est clair. Il y a eu une crainte entre la Tunisie, Ben Ali qui chutait, Kadhafi, la Syrie, etc. Il y a eu véritablement une crainte. Et pensant véritablement, Xavier Driancourt, l'ambassadeur de France à Alger, dans son témoignage, dit « Il pensait véritablement... » que l'Algérie avait déjà vécu sa révolution en 88 et que ça, c'était plus possible, etc. Hein, Akram, il y a ça, en fait, dans l'imaginaire algérien.
Voilà, est-ce que c'était le bon moment pour faire ce film? Parce que on a l'impression que les officiels, alors soit Barzouki, ancien président tunisien, Hollande, ancien président français, officiel de très très haut niveau, ministre algérien, ou bien parfois des officiels un peu plus anonymes.
Oui.
Malek Bensmaïl, on a l'impression que tout le monde... Il y a une sorte de libération de la parole. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est juste votre constance, votre persévérance et la pertinence de vos questions?
Je crois que ça a été un long travail, je crois. Très sincèrement, pour obtenir des réponses assez libres.
Il y avait beaucoup de rush.
Voilà, il y avait beaucoup de rush. Et évidemment, l'idée au départ, c'était quasiment de faire un 90, voire même plus, un 90 minutes. Arte a demandé qu'on s'arrête vraiment à une heure. Moi, j'aurais voulu même presque un deux fois une heure. C'était l'idée d'une série, en fait, au départ. Et on a des rushs qui permettent effectivement d'avoir une série extraordinaire. Et on a tourné comme si on allait faire une série, mais ça n'a pas été possible.
Il faut dire aussi qu'il y a eu des refus.
Oui.
Il y a tout de même certaines personnalités qui ont dit « Écoutez, vous êtes gentil, mais l'Algérie, il n'y a que des coups à prendre, notamment côté français. »
Nicolas Sarkozy, par exemple.
Je ne sais même pas si...
Parce que vous ne vouliez pas lui parler ou c'est lui qui...
Non, on a eu des refus de Sarkozy, on a eu des refus de Villepin. De Raffarin, de Villepin.
Voilà, qui sont des gens qui ont à un moment ou à un autre été en relation avec, je dirais, la diplomatie ou les autorités algériennes. Et vous évoquiez les printemps arabes, enfin cette période charnière qui est aujourd'hui encore, d'une certaine manière, encore dans l'actualité. Mais ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que quand on regarde l'Algérie du côté français, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? À quoi pense-t-on? On pense, bien entendu, au passé colonial, on pense à la question des visas, mais on a du mal, aujourd'hui, à voir l'Algérie comme étant un grand joueur sur le terrain géostratégique et géopolitique. Et ce film montre le potentiel, parce que tout le monde reconnaît que c'est un pays incontournable, ne serait-ce que pas de par sa position géographique. Mais tous ces événements qui ont été cités montrent quoi? Ils montrent que, finalement, l'Algérie est dans une position défensive. Elle est dans une position défensive par rapport au printemps arabe. Elle réagit, mais elle est incapable, si vous voulez, d'absorber le choc et de transformer ça pour quelque chose qui soit positif pour elle. Idem sur la question de la Libye. Est-ce qu'une Algérie à l'aura, à la stabilité comparable de celle des années 70, aurait accepté que l'OTAN intervienne comme ça à ses frontières? Je n'en suis pas sûr. Là, sur cette question, on voit qu'il y a une certaine forme de résignation, voire même d'impuissance. C'est-à-dire que les Algériens ont essayé de convaincre les Européens, et notamment la France, de ne pas intervenir, de donner sa chance à l'initiative africaine, des chefs d'État africains, pour convaincre Kadhafi de quitter le pays. Mais ça n'a pas pu se faire. Donc on voit bien que c'est pas un acteur négligeable sur le plan régional, mais qui aujourd'hui, pour diverses raisons, a du mal à jouer son rôle de puissance régionale, parce que potentiellement, c'est ce que c'est.
C'est vrai que le film, on l'a démarré bien avant le Covid, et ça a été très compliqué. Très compliqué parce qu'on a senti assez vite que le sujet Algérie posait un problème, mais je ne m'attendais pas à ce point, c'est-à-dire poser un problème brûlant pour l'ensemble des personnalités. Même ceux qui ont accepté. Il a fallu des négociations.
Vous voulez dire les personnalités non algériennes.
Et algériennes aussi au départ, même si elles ont accepté, mais ça a été des négociations. Ça a été parce que du côté algérien, c'est est-ce que vous faites le film, est-ce que vous n'êtes pas orienté par l'Occident? Et à l'inverse, si dans l'autre sens, mais alors qui vous dirige? Donc il y a un côté, il y a une méfiance.
Couple c'est-à-dire paranoïaque.
C'est-à-dire qu'il y a à la fois une méfiance. C'est compliqué. L'Algérie, n'oublions pas, même si c'était des gens qui étaient en poste, c'est des gens qu'on peut rappeler à des postes, c'est des gens qui peuvent être rappelés à des postes de conseil. Robert Mallet est aujourd'hui conseiller de Biden sur la question de l'Iran, sur la question aussi du Maghreb, etc. Donc il est dans le film. Donc c'est des gens qui peuvent être rappelés, évidemment. Donc à ce moment-là, quand ils font des déclarations sur l'Algérie, ils se disent, est-ce que je le dis en tant qu'ancien officiel, mais aussi, là, je suis peut-être dans une période où je suis un peu en creux, en retrait, mais demain, on peut me rappeler. Et l'ensemble des personnalités que l'on connaît, que l'on a dans le film, peuvent être rappelées, évidemment. Donc, c'est un sujet diplomatique, politique, des relations internationales qui peut, effectivement, c'est très compliqué. Parce qu'il y a une caméra en face, parce qu'il y a un enregistrement qui se fait, et les mettre en confiance. Donc, c'est pour ça que les entretiens, on a décidé que c'était des entretiens très longs.
Très long, ça veut dire c'est-à-dire
minimum 2 heures, c'est vraiment le minimum, pour à la fois rester dans une sorte de relationnel plus important, en tout cas dans le dispositif, dans la manière de poser les questions, passer effectivement d'abord par la question aussi des personnels, de comment ils sont arrivés à des postes, c'est quoi l'enjeu de la diplomatie. Ça a été des questions larges, des questions plus centrées et au fur et à mesure beaucoup plus pointues. Mais ça, c'est aussi de la négociation, c'est beaucoup de mails, c'est des rencontres dans les cafés, c'est mais qu'est-ce que va raconter le film, quelles sont les intentions. Et ça, c'est compliqué.
Beaucoup de off.
On a du off aussi, mais c'est compliqué parce que ma réponse est de dire, justement, il faut que le film pense par lui-même. Et ça, ils ont du mal à l'accepter parce que, eux, dans la diplomatie, tout ce qui est dit doit être pesé, etc. et de leur dire simplement, il faut que le film pense par lui-même, c'est-à-dire il faut que vos témoignages soient les plus sincères que possible, et c'est au spectateur, nous on ne dirige pas, même le commentaire écrit situe des éléments, mais n'est pas pamphlétaire, ne pose, et je ne vais pas tirer sur l'ambulance Bouteflika, même si c'était à la fin, voilà, donc une c'est respect, parce que Bouteflika a eu aussi des moments importants. Ça a été aussi un grand diplomate, ça a été aussi un grand ministre des Affaires étrangères. On ne peut pas le nier. Lakhdar Brahimi est un des grands diplomates algériens, on ne peut pas nier. Donc, c'est très important aussi de leur donner leur part. Et ça, c'est le propre du cinéma documentaire, dans la lignée qu'a pu réaliser William Carell sur Bush, par exemple, sur les années Bush. Et voilà, il a fait un travail extraordinaire. Sans porter en tout cas des attaques, mais en simplement essayant à la fois de rendre compte des réussites des relations internationales et de la diplomatie, mais aussi des échecs.
Malek Bensmaïl, l'heure tourne, mais je ne peux pas terminer cette émission sans citer votre ange tutélaire, Frantz Fanon, puisque le film se termine par une magnifique citation de lui. « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Est-ce qu'il y a une nouvelle génération en Algérie ?
Oui, il y a une jeunesse, il y a une nouvelle génération. Et cette formule de Fanon est intéressante parce qu'elle ouvre le possible. Elle peut fermer, mais elle peut ouvrir aussi. Et je pense qu'on a une génération... il faut rappeler qu'on a quand même beaucoup de jeunes qui sont actuellement en prison pour délits d'opinion, etc. Et qu'il y a une jeunesse qui est très politisée quelque part et qui a envie véritablement de liberté, de justice sociale, etc. Et encore une fois, je termine d'ailleurs le film par le mouvement du Hirak, par la jeunesse, parce que je pense véritablement que c'est par cette force de cette jeunesse-là, par la possibilité de lui donner, encore une fois, la possibilité d'avoir une justice sociale, d'avoir une liberté, d'avoir la liberté d'opinion et de mettre en place une véritable démocratie, c'est cette force-là qui fera la puissance régionale et internationale du pays, pas l'inverse. Et nous, on n'arrête pas de penser à l'inverse, c'est-à-dire de dire comment on peut... passant par l'intérieur, transformant, réformant, démocratisant, remettant en place une justice, une vraie justice, remettant en place un vrai système éducatif. Et à ce moment-là, quand les donnes seront excellentes, eh bien, évidemment, l'État sera et la diplomatie algérienne sera puissante. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, c'est mon avis de citoyen.
Malek Bensmaïl, Akram Belaïd, merci beaucoup. On rappelle le titre de votre documentaire « Toute l'Algérie du monde ». Vous restez un petit peu avec nous après la pause musicale et le reggae aérien d'une jeune chanteuse belge, Céla Sou. On va feuilleter le journal de la culture, le petit journal du cinéma, avec Sophie Torlotin.
You spend all your time trying to make me jealous of you and showing off that beauty that you don't really have. All I see is your mistakes. It's giving me a headache. Every minute, every day, it's so hard to nobody tells about me. I'm judging everybody. Seeking and you live for the lies. I can't figure out, yeah, if I pull at the seams, will you fall apart and show beauty only goes skin deep? Everything I see is fake. It's giving me a headache.
Every time I ring your phone, you don't pick. And how come every time you home alone, you so sick? Fame has got you sprung and them Benjamins got a grip around your neck and on your lips got you craving another hit. To be honest, we got the two incoming, I guess. Point the finger, three pointing back to me like I'm it. Misery like company, come and join in the fun with me before the party over and they screaming hooray.
Du petit journal du cinéma et c'est la belle année pour les réalisatrices. Je sais que ça vous réjouit.
Oui, et de trois après Cannes et la Palme d'Or décernée à Julie Ducournau, Venise et le Lion d'Or pour Audrey Diwan, c'est au tour du jury du Festival de Saint-Sébastien de remettre sa plus haute récompense à une femme, la Roumaine Alina Grigore, 36 ans, reçoit la Coquille d'Or pour son premier long métrage Blue Moon.
Alina.
Voilà, Blue Moon retrace le parcours d'une jeune femme qui tente d'échapper à la violence de sa famille. Le jury de la 69e édition du Festival de Saint-Sébastien décerne également un prix, la Coquille d'Argent, donc le deuxième plus grand prix, à une réalisatrice, la Danoise Thea Lindeborg, pour As in Heaven, un film qui dépeint la vie au Danemark au 19e siècle à travers le regard de trois femmes.
Au Kenya, la censure sévit de nouveau pour un film parlant d'homosexualité.
Oui, c'est le documentaire I Am Samuel du réalisateur kényan Peter Ramini qui est interdit de projection par les autorités.
Huyuni Alex, mimi ni Sami. Alex ni penzi langu la maisha. Namuelewa na ananielewa pia. Tunafaana.
Alors ce documentaire, I Am Samuel, raconte l'histoire d'amour entre deux hommes vivant à Nairobi. Le film a suscité la colère de l'organisme kényan de classification des films qu'il accuse de faire la promotion du mariage gay. Comme vous le savez, l'homosexualité est toujours interdite au Kenya, hein, suivant des lois héritées de l'époque coloniale britannique. I Am Samuel est le deuxième film ces dernières années à faire polémique à ce sujet. On se souvient de l'interdiction de Rafiki en 2018. Après une bataille judiciaire, le film sélectionné à Cannes avait fini par être projeté pendant une courte période à Nairobi.
En Somalie, c'est un événement, projection de deux films pour la première fois depuis 30 ans.
Oui, oui, ça s'est passé le 22 septembre dernier. Les habitants de Mogadiscio ont retrouvé le chemin du Théâtre National de Somalie. Le lieu qui accueillait la projection à l'occasion de sa réouverture a par le passé connu des attentats suicides, a servi de base à des chefs de guerre. Donc le théâtre a rouvert ses portes pour la projection sous haute condition de sécurité de deux courts-métrages du réalisateur Ibrahim CM, deux courts-métrages intitulés House et Death from Hell. Le ticket d'entrée était d'environ 8,50 €, ce qui est un prix évidemment très très élevé pour beaucoup d'habitants de Mogadiscio.
Dernière étape de notre journal du cinéma, Hong Kong. Le cinéma hongkongais dans le collimateur des censeurs, c'est l'un des effets collatéraux de la loi sur la sécurité nationale imposée dans l'île par Pékin. Alors Stéphane Lagarde, bonjour.
Bonjour.
Alors la loi sur la sécurité nationale, donc elle étend les pouvoirs de la commission de la censure, c'est ça ?
Oui, désormais les cinéastes hongkongais sont à la même enseigne que les réalisateurs de Chine continentale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'on marche sur des œufs quand on fait des films en Chine. Chaque projet peut être à tout moment interrompu par la censure. Du coup, on s'auto-censure justement et tout un pan du cinéma social, du documentaire n'est pas montré sur les écrans chinois. On voit seulement ces films à l'étranger. Je pense notamment au documentaire de Wang Bing qu'on aime beaucoup, par exemple ici en Chine. Exemple encore avec Revolution of Our Times, Révolution du temps présent de Kiwi Cho, qui raconte la mobilisation démocratique de 2019. On revoit notamment dans ce film ces manifestations géantes dans les avenues de Hong Kong, dont les images ont fait le tour du monde. Ce long documentaire a été projeté à Cannes cet été, vous vous en souvenez, mais les Hongkongais ne le verront pas. Pour protéger son film, le réalisateur a même vendu ses droits d'auteur à l'étranger et l'équipe de production a choisi de rester anonyme.
Alors l'extrait qu'on entend, c'est un autre film auquel a participé Kiwi Cho. Ten Years est sorti en 2015, donc juste après la révolution dite des parapluies à Hong Kong. Et lui aussi, donc Stéphane, pourrait être visé par la censure.
Oui, car la nouvelle réglementation donne des pouvoirs rétroactifs à la commission de la censure. Les censeurs peuvent interdire désormais des productions passées, comme ce film d'anticipation dont vous parlez, qui raconte le Hong Kong de 2025, où les libertés et la culture cantonaise seraient réprimées. Le film a eu un immense succès commercial, lui aussi donc pour être privé d'écran sur décision des autorités. Il faut savoir que les responsables des projections non autorisées risquent gros. Aujourd'hui, le tarif, c'est désormais 3 ans, enfin jusqu'à 3 ans de prison et près de 110 000 euros d'amende pour diffusion d'images non autorisées, ce qui vous en conviendrez, est plutôt dissuasif dans un climat de répression plus large de l'ensemble des mouvements pro-démocratiques à Hong Kong. Et cela devrait progressivement donc étouffer toutes ces productions jugées subversives par le pouvoir chinois.
Autre film menacé par la censure, celui de la réalisatrice Mok Wan Ling, Zack Up. Zack Up, ça veut dire nettoyer la maison. Et c'est un titre à prendre au sens littéral, car il fait référence à la façon dont une famille doit faire le ménage avant une descente de police, lorsque l'un des membres du foyer est arrêté.
Oui, ce moyen-métrage raconte ce drame que vivent de nombreux foyers à Hong Kong. Nous étions dans les manifestations de 2019. On vous a partagé sur l'antenne de RFI les témoignages de ces jeunes qui faisaient le mur pour aller manifester, soit que leurs parents étaient opposés à leur engagement pro-démocratique, soit tout simplement eh bien qu'ils avaient peur que leur fille ou leur fils soit interpellé dans ces manifestations. Et donc ce film ne passe pas. La réalisatrice a reçu un courrier lui demandant de procéder à 14 coupes hein, sur 27 minutes, ça fait beaucoup. Notamment une scène où le père raconte que son fils était engagé dans les street medics, les équipes médicales venant au secours des blessés lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Pas question de donner une image positive aux manifestants. La censure a sorti le Final Cut. Plutôt que de voir son film totalement défiguré, Mok Wan Ling a préféré abandonner le projet. Elle n'est probablement pas la seule aujourd'hui. Un crève-cœur, hein, car Hong Kong a été pendant longtemps l'un des terrains les plus fertiles de la région pour le 7e art avec la Corée et Taïwan. Et je peux vous dire que cette censure chinoise exportée à Hong Kong peine aussi une partie du monde du cinéma ici sur le continent.
Merci beaucoup Stéphane Lagarde. C'est sur ce reportage à Hong Kong que se termine notre émission. Merci aussi à vous deux, Akram Belkaïd et Malek Bensmaïl. Toute l'Algérie du monde, donc une plongée dans les arcanes politiques et géopolitiques de l'Algérie pendant les années 90 et 2000. C'est un film que vous pouvez voir sur Arte, Arte TV en replay jusqu'au 26 novembre. Ne tardez pas, ça va filer très vite. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin et Elisabeth Le Quéré. À la réalisation, Fanny Renard. Rendez-vous samedi prochain et d'ici là, bonne semaine à tous.
Fallait sortir RFI.